Donne la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, merci de rester fidèles à la Voix de l'Amérique. Nous sommes en direct de Washington dans les studios d'Independence Avenue. Nicolas Pineau et Morgane Guiriec avec vous ce soir. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Nicolas, bonsoir l'Afrique.
À la une ce soir, les États-Unis demandent au Caire de prouver qu'il veut la démocratie après de nouvelles condamnations à mort d'islamistes. À Brazzaville, difficile pour les entreprises d'obtenir des crédits auprès des banques.
Parce que nous n'avons pas des banques capables de répondre à cela. Nous avons des banques commerciales.
Au Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde, le nombre de députés va augmenter.
C'est une situation extrêmement grave pour notre pays. Quand vous voyez le pays le plus pauvre au monde, qui vit exclusivement de l'aide extérieure.
En fin d'émission, les sports, demi-finale de la Ligue des Champions ce soir entre le Bayern de Munich et le Real de Madrid. Sans oublier Roger Muntou qui viendra ambiancer vos oreilles en fin d'émission. Mais tout d'abord le journal, vous écoutez La Voix de l'Amérique. Bonsoir.
L'Égypte a fait des progrès dans la transition démocratique, mais les dernières condamnations sont troublantes. Déclaration de John Kerry à l'issue de son entretien ce mardi avec le ministre égyptien des Affaires étrangères. Les responsables militaires au pouvoir en Égypte doivent prouver qu'ils sont sérieux dans l'instauration de la démocratie, indiqué le secrétaire d'État américain John Kerry.
Et hier, les États-Unis ont dénoncé avec force les 683 condamnations à mort au Caire. Quant à John Kerry, il doit s'envoler ce mardi pour entamer une tournée sur le continent africain. Une visite qui commence par l'Éthiopie, Jacques Aristide.
Un périple d'une semaine pour encourager le développement de la démocratie, promouvoir le respect des droits de l'homme et faire avancer la paix et la sécurité sur le continent, selon le département d'État. À Addis Abeba, deux dossiers attendent le chef de la diplomatie américaine, la crise sud-soudanaise et l'emprisonnement de journalistes éthiopiens. En Angola, comme au Congo-Kinshasa, c'est avec les chefs de l'État de ces pays qu'il parlera de coopération bilatérale. À Luanda, le secrétaire d'État transmettra les encouragements de l'administration Obama au président José Eduardo dos Santos pour son leadership au sein de la conférence sur la région des Grands Lacs. Tandis que dans la capitale congolaise, il sera question avec le président Kabila des efforts pour neutraliser les groupes armés dans l'est de la RDC, mais aussi de la présidentielle de 2016. Comme il l'a souligné dans un entretien à la VOA, il serait mal avisé de modifier la constitution dans l'unique but de se maintenir au pouvoir. Allusion faite à la polémique autour d'un éventuel troisième mandat pour le président Joseph Kabila.
Les pourparlers entre les deux belligérants sud-soudanais ont repris hier à Addis Abeba. Il n'y a pas encore de dialogue direct entre les deux camps qui se sont penchés mardi, chacun de leur côté, sur un projet d'ordre du jour des discussions. Le cessez-le-feu signé en janvier n'a jamais été respecté.
Et par ailleurs, Tony Lanzer, chef des opérations humanitaires de l'ONU au Soudan du Sud, appelle à une trêve pour éviter la disette. L'ONU a prévenu que la famine menace plus d'un million de personnes déplacées par ce conflit. Il est 18h33, temps universel en République centrafricaine. L'insécurité persiste dans la capitale Bangui et à l'intérieur du pays. Un jeune homme a été mutilé aujourd'hui par des inconnus au quartier Fatima, dans le 6e arrondissement de Bangui. Les derniers événements avec Félix Yepassi Zembrou.
Selon Abakar Ousmane, porte-parole des musulmans de PK5, la victime est un jeune musulman qui a été enlevé par des anti-Balaka alors qu'il rendait visite à sa mère, non musulmane, au quartier Fatima. Ahmad Deliris, vice-président de la communauté islamique, précise que les ravisseurs l'ont tué, mutilé et jeté son cadavre sur la route. La nouvelle a créé une vive émotion au PK5. Des jeunes en colère ont exhibé le corps devant le commissariat du 3e arrondissement où sont basés les soldats burundais de la MISCA. En début de soirée, des tirs à l'arme légère ont été entendus dans le secteur. Dans un échange avec les syndicats, la présidente Catherine Samba-Panza appelle tous les travailleurs à mettre la main à la pâte pour aider à sortir de la crise.
Je tiens à remercier l'ensemble des travailleurs pour leur patriotisme et leur attitude citoyenne. Mais je les exhorte à se mobiliser davantage, car c'est d'eux que viendra le signal fort de la reprise des activités socio-économiques dans notre pays.
Signalons qu'une mission de l'Organisation de la Conférence islamique séjourne depuis ce matin à Bangui, afin d'aider à ramener la paix en Centrafrique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté la fin de l'embargo sur les diamants ivoiriens. La mesure frappait depuis 2005 la commercialisation des diamants bruts de Côte d'Ivoire. Ce pays a depuis adhéré au processus de Kimberley qui régule le commerce des diamants. Pour une réaction, écoutez l'ambassadeur ivoirien aux Nations Unies, Youssouf Bamba.
Ça traduit la reconnaissance des efforts faits par la Côte d'Ivoire en vue de normaliser la vie dans tous les secteurs d'activité, notamment en ce qui concerne la filière diamantifière. On ne pouvait pas exporter le diamant ivoirien. Donc tout ce qui était fait, c'était, si vous voulez, un peu intramuros. Donc ça suppose beaucoup d'illégalité, tout ça. Tout le monde a reconnu que la Côte d'Ivoire satisfait aux exigences minimales dans le cadre de la certification. Donc il fallait que l'embargo soit levé pour que la Côte d'Ivoire puisse exporter.
Youssoufou Bamba, qui était joint à New York, les Nations Unies, dans une résolution adoptée à l'unanimité, ont aussi assoupli l'embargo sur les armes. Les armes lourdes restent strictement contrôlées, mais des armes légères pourront désormais être livrées à la police et à la gendarmerie ivoirienne, sous réserve de notification préalable à l'ONU.
À Dakar, le retour de l'ancien président sénégalais continue d'alimenter le débat. Abdoulaye Wade vient pour faire pression sur la justice, selon Aminata Touré. Le Premier ministre sénégalais a fait cette déclaration aujourd'hui devant l'Association de la presse étrangère au Sénégal.
À Bamako, passage obligé pour Moussa Mara. Le Premier ministre malien a prononcé son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Vendredi prochain, le Premier ministre va répondre aux questions des députés Kassine Traoré.
C'est la première déclaration de politique générale d'un Premier ministre malien après la crise, Moussa Mara.
Faisons en sorte que plus jamais le Mali n'ait besoin de quelqu'un d'autre pour se protéger, se défendre et assurer sa sécurité. Relevons-nous et engageons-nous dans un grand élan de sursaut national pour réaliser ce dessein pour nous-mêmes et pour nos enfants. Le sursaut national est plus que nécessaire.
Les documents soumis au vote des députés appellent les Maliens à la reconstruction du pays.
La réalisation de ce projet implique pour chaque Malien le devoir de conduire une œuvre de transformation économique et sociale qui permette de conjurer les périls que sont l'insécurité dans le nord du pays, la désagrégation des institutions publiques, la corruption.
Dans les jours, mois et années à venir, le Premier ministre et son gouvernement veulent sortir des discours pour poser des actes concrets.
La restauration de l'intégrité du territoire et la sécurisation des biens et des personnes, la réconciliation des Maliens, le redressement de l'école, la construction d'une économie émergente, restructuration engagée des forces armées et de sécurité, avec une unicité de la chaîne de commandement, une hiérarchie militaire clairement sous l'autorité du pouvoir politique.
Bamako, Kassim Traoré, la voix de l'Amérique.
À Ouagadougou, les organisations de la société civile burkinabé appellent à manifester contre une révision de l'article 37 de la Constitution. Samedi, le CDP, le parti au pouvoir, avait demandé au président Compaoré de convoquer un référendum en vue de modifier cet article. Blaise Compaoré est au pouvoir depuis le coup d'État de 1987.
La Guinée a enregistré depuis le début de l'année 74 décès sur 121 cas de fièvre Ebola examinés en laboratoire. C'est ce qu'annonce ce soir le ministère guinéen de la Santé dans un communiqué.
Nouvelle violence politique en Libye. Des hommes armés ont investi les locaux du Parlement alors que les législateurs s'apprêtaient à élire un nouveau Premier ministre. Le vote a donc dû être reporté à la semaine prochaine.
Et Morgane, deux candidats sont arrivés en tête du premier tour. Ahmed Mitig, homme d'affaires originaire de la ville de Misrata, et Omar Alassi, universitaire de Benghazi, avec respectivement 67 et 34 voix sur 152 députés présents. Le vainqueur succédera à Abdallah Al-Thani, qui a récemment démissionné.
Sahara occidental, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution qui appelle à améliorer les droits de l'homme dans cette région. Les Nations Unies n'ont cependant pas instauré de mécanisme de contrôle. Le mandat de la MINURSO, mission de l'ONU au Sahara occidental, qui se termine fin avril, a également été renouvelé pour un an.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 18h39, temps universel dans le reste du monde. Les États-Unis qualifient de terrorisme les violences commises dans l'est de l'Ukraine contre les partisans de l'unité du pays et l'enlèvement d'observateurs de l'OSCE. C'est ce qu'annonce l'ambassade américaine à Kiev dans un communiqué. L'Union européenne annonce à son tour, de son côté, de nouvelles sanctions contre 15 personnalités russes. Elles sont ciblées en raison de leur rôle dans la crise ukrainienne. Michel Joseph, Moscou a réagi en accusant l'Union européenne de ne comprendre absolument rien aux réalités politiques ukrainiennes.
Pour le ministère russe des Affaires étrangères, ces sanctions européennes constituent une invitation directe aux néo-nazis locaux pour la poursuite de leurs actes anarchiques dans le sud-est. Le Kremlin a promis une réponse douloureuse. Hier, 7 responsables et 17 entreprises russes ont été aussi ciblées par Washington pour un gel de leurs avoirs et une interdiction de se rendre aux États-Unis. De son côté, le Japon va refuser des visas à 23 Russes qu'il n'a pas identifiés. Sur le terrain, après des assurances données hier par le ministre russe de la Défense à son homologue américain, un porte-parole de l'OTAN a souligné aujourd'hui que rien n'indique un retrait des forces russes de la frontière ukrainienne. Des séparatistes pro-russes ont saisi aujourd'hui le QG du gouverneur régional à Luhansk, ce qui porte à au moins 11 le nombre de localités où ils occupent des bâtiments gouvernementaux dans l'est et le sud de l'Ukraine.
En Syrie, 36 personnes ont trouvé la mort dans un attentat à la voiture piégée à Homs. L'attaque s'est produite dans un quartier essentiellement alaouite de cette ville assiégée. Par ailleurs, dans la capitale, Damas, des obus de mortier ont tué au moins 14 personnes et fait plus de 80 blessés. Des élèves d'une école religieuse compteraient parmi les victimes. Pour le gouvernement syrien, ces bombardements sont l'œuvre de terroristes, un terme utilisé pour désigner les rebelles.
Et les forces gouvernementales font elles aussi l'objet d'accusations. Human Rights Watch affirme qu'elle continue de bombarder Alep en dépit d'une résolution de l'ONU exigeant l'arrêt de telles attaques. Toujours dans la région, les Irakiens sont appelés aux urnes demain pour les élections législatives. Ce seront les premières élections depuis le départ des troupes américaines en 2011. Les observateurs craignent cependant une flambée de violence, Jean-Roger Billon.
Deux autres bombes ont explosé aujourd'hui en Irak, tuant au moins 10 personnes à la veille du scrutin. Les explosions se sont produites à Al-Sadia, à environ 140 km de Bagdad. Des attentats dans la capitale irakienne et les régions au nord de la ville ont fait hier au moins 50 morts. Le vote a débuté lundi matin pour ceux qui ne pourront le faire mercredi. Les observateurs prédisent que les choix des électeurs se feront probablement en fonction des alliances sectaires et ethniques. Aucun parti n'est donné favori. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné les attaques qui visaient des dirigeants politiques et des candidats. Dans une déclaration lundi soir, il a exhorté les dirigeants irakiens à s'assurer que tout le monde soit en mesure de prendre part au processus politique. Le chef de l'ONU a également salué la commission électorale de l'Irak pour la tenue des élections dans les délais et a qualifié le vote d'étape importante dans la transition démocratique dans le pays.
Exercice militaire en Corée du Nord. Pyongyang a entamé des tirs d'artillerie près de sa frontière maritime contestée avec la Corée du Sud. Des exercices prévus, affirme Séoul, qui dit avoir été informé par Pyongyang. La Corée du Nord avait tenu des exercices similaires le mois dernier.
Voilà pour le journal. Toujours dans les studios de Washington, Nicolas Pineau et Morgane Guiriec. En direct, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique.
En Centrafrique, le Haut Commissariat de l'ONU chargé des réfugiés a condamné l'attaque hier contre un convoi de musulmans qui fuyaient les violences à Bangui, Nicolas.
Un groupe armé, Morgane, a jeté des grenades sur ce convoi de 1300 musulmans près de Dekoa au nord, faisant 2 morts et 6 blessés. Idriss Fall a joint Kwasi Lazare-Etienne, représentant du HCR à Bangui.
C'est assez triste que cette attaque, malheureusement, on ne peut pas ratisser toute la brousse ou la broussaille le long de ce long chemin qui mène de Bangui jusqu'à Cabo et Moyen-Sido. Naturellement, ceux qui ont attaqué ont trouvé donc des points stratégiques où ils ont lancé des grenades et après se sont évanouis dans la nature, environ à Dissikou, à 50 km de Kazabandoro. On déplore 2 morts et 6 blessés. Le convoi a pu rallier Kazabandoro dans la journée d'hier où il a passé la nuit. Donc les blessés ont reçu les premiers soins et aussi ont pu manger, se reposer. L'escorte a repris le chemin aujourd'hui en espérant que le groupe arrive aujourd'hui à Cabo et à Moyen-Sido.
Mais ce n'est pas la première fois qu'on attaque des musulmans qui veulent fuir l'enfer de Bangui.
La situation est assez délétère. La tension est permanente. Et c'est pour cela aussi que, préparé à toute éventualité, nous avons pris les mesures, avons bénéficié donc de la coopération des forces internationales, à savoir la MISCA pour ce cas bien précis, mais aussi habituellement, aussi Sangaris nous appuie. Mais comme je vous disais, le convoi est assez long et on ne pourrait pas avoir des soldats comme des piquets tout le long du chemin. l'espoir est organisé en se disant quand même que les risques ne sont pas à écarter à 100%. Autrement dit, on n'aurait pas prévu donc l'espoir.
Les musulmans sont coincés dans des quartiers de Bangui et le gouvernement ne souhaite pas qu'ils soient relocalisés ailleurs.
Le gouvernement joue sur un terrain qui n'est pas forcément le nôtre, non humanitaire. Le gouvernement a une position que nous comprenons aussi. Mais nous avons le mandat international de protéger les personnes en danger. Et c'est bien le cas de ces musulmans qui sont dans les poches, qui sont coincés. Et cela dure depuis des semaines et des mois. Et plus d'une fois, nous avons approché les autorités qui elles-mêmes ont compris la nécessité de protéger ces gens pour comprendre aussi le gouvernement. Bon, c'est une question de moyens. Aujourd'hui, le gouvernement bataille sur plusieurs fronts. Il était de notre devoir, nous humanitaires, de prendre nos responsabilités. Et je pense qu'aujourd'hui, une vie de sauver vaut toute autre considération.
Kwasi Lazar, Etienne, du HCR à Bangui.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
18h46, temps universel, vous êtes toujours à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Partons pour Brazzaville où les opérateurs économiques n'accèdent pas facilement au crédit bancaire pour réaliser leurs projets. Les banques, pourtant en surliquidité, redoutent souvent de perdre de l'argent face à des entreprises qu'elles estiment peu rassurantes, trop de risques qu'elles ne veulent pas prendre. Voici le reportage de notre correspondant sur place, Gwelan Goussou.
En 2013, par exemple, les banques congolaises se sont encore endormies sur plus de 700 milliards de francs CFA de surliquidité. Les opérateurs économiques qui recherchent des crédits pour financer leurs projets n'obtiennent rien. El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka, le président du patronat congolais, est quasiment aux abois.
Les opérateurs économiques, que ce soit grands ou petits ou micros, ont des difficultés pour leur relance aux activités économiques parce que nous n'avons pas de banques capables de répondre à cela. Nous avons des banques commerciales. Les taux ne peuvent pas répondre à quelqu'un qui veut investir dans une activité industrielle qui a rentabilité à moyen et long terme.
Insensibles, les banques ne tiennent pas à perdre un seul sou de leurs bénéfices avec les entreprises congolaises qui n'offrent, semble-t-il, pas assez de garanties. Alexandre Mayamat est le responsable de la Société Générale Congo, filiale d'une banque française.
La singularité de la Société Générale, présente en Afrique depuis 50 ans, c'est qu'elle a su y développer des modes de financement qui permettent à la fois de répondre aux besoins des particuliers et des entreprises africaines, tout en préservant la qualité de nos risques. Parce qu'une banque qui maîtrise ses risques, c'est une banque en qui on a confiance.
Les autorités congolaises estiment que c'est une affaire entre les banques et leurs clients. Toutefois, le gouvernement envisage des mesures d'accompagnement telles que l'énonce ici Gilbert Ondongo, le ministre des Finances.
Au niveau du Conseil des ministres, nous travaillons à déterminer des règles qui rendent le crédit un peu plus facile. Le plus important pour nous à faire, c'est de disposer des ressources longues qui sont adaptées à l'octroi des crédits aux investisseurs.
Pas assez rassurant ni concret pour le président du patronat, Abdoulaye Bopaka.
Le gouvernement jusque-là n'a pas encore fait un effort considérable à ce niveau-là. Donc nous sommes comme un peu les gens abandonnés et nous n'avons pas de fonds.
Signalons que le taux de bancarisation au Congo est encore de 5% et seulement 3,4% d'entreprises locales accèdent au crédit bancaire selon la Banque mondiale. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Au Niger, le gouvernement a adopté un projet de loi pour faire passer le nombre de députés de 113 à 171. L'objectif, c'est de répondre à une augmentation de la population par rapport à 2002, mais la mesure n'est pas du goût de tout le monde, particulièrement au sein de la société civile. Idriss Fall a joint à Niamey Ali Idrissa du Rotab, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire.
C'est une situation extrêmement grave pour notre pays. Quand vous voyez le pays le plus pauvre au monde qui vit exclusivement de l'aide extérieure et des emprunts, qui se permet d'augmenter le nombre de députés. Déjà, nous trouvons ce nombre de 113 députés très élevé par rapport au travail qu'ils sont en train de faire. Ces députés ne font même pas le travail pour lequel ils sont élus. Et qu'on puisse vouloir aujourd'hui augmenter le nombre de députés, nous trouvions ça très très grave et inconscient. Pour nous, c'est un complot de la classe politique nigérienne contre le peuple nigérien.
Mais c'est dans quel but? Que dit le gouvernement comme argument pour vouloir augmenter le nombre de députés?
Le gouvernement veut augmenter le nombre de députés par rapport à la population, soi-disant, qui a augmenté de 1 million ou bien à 2 millions. Nous ne pouvons pas comprendre qu'on puisse augmenter 58 députés parce que les populations nigériennes ou bien l'effectif des populations nigériennes a augmenté de près d'un million. C'est une aberration pour nous. Cet argument du gouvernement ne tient pas parce que ces 113 députés actuels ne font même pas le travail pour lequel ils sont élus. Il serait même important de diminuer sur le nombre de députés pour pouvoir faire des économies sur les charges de fonctionnement de cette institution, investir dans l'éducation, dans la santé et prétendre pouvoir aller au développement de notre pays.
Est-ce que même les députés actuels, on les entend dans les négociations entre le gouvernement et Areva, par exemple? Est-ce qu'ils représentent vraiment les intérêts des populations?
C'est ce que nous trouvons très grave. Les députés actuels ne s'occupent même pas des débats économiques, des débats qui ont des enjeux pour notre pays, notamment les renégociations Niger-Areva, qui ne discutent même pas en une journée et qui se permettent aujourd'hui. La situation actuelle par rapport au renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, qu'ils puissent bloquer cette question pendant plus d'une semaine par rapport à des postes, nous trouvons ça très très grave et nous dénonçons le comportement de ces députés qui ne sont plus les représentants du peuple nigérien, qui ne représentent que eux et leurs seuls intérêts.
Ali Idrissa, joint à Niamey.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, la politique américaine pour l'Afrique subsaharienne, avec en toile de fond la tournée du secrétaire d'État John Kerry en Afrique cette semaine. Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
La Voix de l'Amérique, c'est aussi du sport. Nous accueillons dans ce studio pour en parler Timothée Donormaille. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Nico.
Alors Timothée, on commence évidemment par la grande affaire ici en sport aux États-Unis. Ça concerne la NBA, le championnat de basket nord-américain. La décision est tombée il y a quelques minutes. Donald Sterling, le propriétaire des Clippers de Los Angeles, suite à la diffusion de ses tirades racistes contenues dans une conversation téléphonique, eh bien, que s'est-il passé pour M. Sterling?
Alors, Nicolas, il est banni à vie. C'est la décision qu'a annoncée le commissaire de la NBA, Adam Silver. Sterling est donc banni à vie des activités des Clippers et de la NBA. Il est banni à vie de toute activité liée au basketball professionnel nord-américain. En outre, il est exclu du groupe des propriétaires de clubs de la NBA et devra vendre son club. Et pour ce faire, Nicolas, il faudra qu'au moins 3/4 des propriétaires votent en faveur d'une telle vente. Donald Sterling devra aussi s'acquitter d'une amende de 2,5 millions de dollars.
Alors Timothée, est-ce qu'il y a déjà eu des réactions concernant cette sanction?
Oui, alors la première réaction, c'est celle de l'ancien basketteur Kevin Johnson, qui est le maire de San Antonio, mais qui est aussi le représentant des joueurs dans cette affaire. Eh bien, il s'est félicité de la décision du commissaire Silver. Il a dit que les joueurs de la NBA sont fiers d'appeler Silver leur commissaire. Mais en même temps, Kevin Johnson a souligné que beaucoup reste encore à faire contre le racisme.
Et Timothée, on peut vraiment dire que cette affaire a suscité une grande vague de réactions, même le président Obama.
Et oui, Nico a commencé par les joueurs des Clippers eux-mêmes et leur coach Doc Rivers. On a vu les joueurs des Clippers jeter, d'abord porter leur uniforme d'entraînement à l'envers pour qu'on ne voit pas le logo des Clippers. Ensuite, ils ont jeté ces uniformes d'entraînement sur le parquet. Et Doc Rivers a aussi interjeté dans cette controverse en disant que ce n'était pas du tout correct ce qu'a dit le propriétaire des Clippers, mais qu'en dépit de tout cela, les joueurs, eux, sont concentrés sur les playoffs. On a vu des artistes comme Snoop Dogg qui ont tenu des propos qu'on ne peut pas répéter ici au micro. Vous l'avez dit, le président Obama lui aussi s'en est mêlé. Il a dit qu'il n'est pas normal que des gens étalent une telle ignorance et que ce n'est pas du tout normal que des gens qui sont des propriétaires de clubs, des gens qui évoluent à ce niveau puissent encore tenir de tels propos.
Allez Timothée, plus positif, on revient sur les terrains de basketball. Il y avait des matchs de play-off la nuit dernière.
Et oui Nicolas, on a vu Miami qui s'est qualifié en remportant son quatrième match face à Charlotte, 109-98. Atlanta a battu Indiana 107-97 et tard dans la soirée, San Antonio a eu raison de Dallas 93-89.
Allez, de la balle orange, on passe à la grande balle blanche ronde. En football, la Ligue des Champions en Europe reprend ses droits ce soir.
Et avec un tout petit but d'avance, le Real Madrid se déplace chez le Bayern Munich pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Début de la rencontre dans quelques minutes. Et demain, dans l'autre demi-finale, l'Atlético Madrid affronte Chelsea.
Et retour sur le tirage au sort des éliminés noirs de la CAN au Maroc.
Et depuis dimanche, les nations africaines connaissent leur sort pour espérer participer au tournoi continental l'année prochaine. Il y aura encore deux tours de barrage avant d'accéder à la phase de poule. Et dans trois semaines, les matchs du deuxième tour auront lieu. Dans un contexte toujours très difficile à Bangui, les fauves du Bazoubangui, les fauves centrafricains, donc, doivent rencontrer la Guinée-Bissau. Incertitude sur le lieu de la rencontre. Écoutons Jacques Ombi, le DTN centrafricain.
C'est ce que nous allons voir. Pour l'instant, la sécurité revient tout calmement, mais ça dépendra de la CAF ou bien de la Guinée s'ils acceptent et que nous acceptons. Mais pour nous, nous aimerons vraiment jouer à Bangui. Il y a des dispositions pratiques qui seront prises, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de la fédération. Donc, il y a des dispositions qui seront prises à ce niveau et tout dépendra vraiment de la Guinée. S'ils acceptent de venir, on pourra jouer ce match.
Jean-Jacques Ombi, le DTN centrafricain, joint à Bangui.
C'était Timothée Donangmaï pour le Journal des Sports.
Voilà, après les sports, la musique, et Roger Muntou est à nos côtés en studio. Alors Roger, on dit quoi aujourd'hui?
On dit quoi? J'aime bien, on dit quoi? Écoute, salut Morgane, bonjour Nico.
C'est comment?
C'est comment? C'est trop bien même. Mais écoutez, que les fans de Miley Cyrus se rassurent, la chanteuse va beaucoup mieux. Miley Cyrus avait été hospitalisée en urgence le 15 avril, annulant dans la foulée un concert à Kansas City. Ouais. Excès de boulot, déprimée suite à la mort de son chien. Rien de tout ça.
Est-ce que c'est que excès de boulot?
On va en parler d'ailleurs, Nico. Mais écoute, écoutons d'abord Get It Right.
Cyrus, qui aurait donc fait une grave réaction allergique à un antibiotique.
Oui, Morgane, mais bien sûr. Mais voilà, on sait très bien, tu sais, Twitter s'est enflammé et toutes les rumeurs possibles et inimaginables. Voilà, Nico qui fait déjà.
La poudre blanche est partout.
Mais écoute, la plus relayée, c'était pas la poudre blanche, Nico. C'était que Miley Cyrus serait enceinte. Alors, afin de faire taire les mauvaises langues, le manager de la Popstar a décidé de mettre les choses au clair dans un communiqué. Il a dit, écoutez, Miley souffrait d'une infection de sinus pendant sa tournée. On lui a prescrit l'antibiotique qui lui a causé une allergie sévère. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il a, Nico, Morgane. Il n'a pas confiance en Miley Cyrus ou bien?
Je sais pas ce qu'il laisse entendre. Mais...
Elle va encore prendre des photos de son ventre pour montrer qu'elle est enceinte.
Comme
elle est très photo, Miley Cyrus.
Elle est super belle aussi. Let your muscles tingle through the roof. Oh, rest it. 'Cause it's a criminal. I've laid in this bed all night long.
Il est 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre...
Voilà, un petit peu pressé, hein. On va évidemment retrouver Jean-Roger Millon dans quelques secondes.
On me chasse déjà.
Merci beaucoup, Roger Muntou, qui nous a parlé de Miley Cyrus. On vous retrouve évidemment 20h, temps universel. Et c'est la fin de notre émission, évidemment en direct de Washington. Merci beaucoup, Morgane.
De rien, à tout à l'heure.
On va évidemment saluer tous ceux qui nous écoutent à Kinshasa, Ridin Dombala, mais aussi à Gisenyi, tous les auditeurs. C'est au Rwanda. Comme eux, retrouvez-nous sur le www.lavoixdelamérique.com et sur notre page Facebook. Miley Cyrus qui revient, on la salue également. Bon rétablissement au niveau des sinus. Georges Léonard Sagnot était à la mise en onde, Nicolas Pinault et Morgane Guiriac à la présentation. On vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.